France Inter. Ancienne journaliste à Libération et à 21, l'écrivaine Judith Pérignon collabore aujourd'hui au Monde. Productrice de plusieurs grandes traversées sur France Culture consacrées à Bruce Springsteen, Mohamed Ali, Margaret Thatcher, Franklin Roosevelt ou Louise Michel, elle a prêté sa plume à plusieurs personnalités dont elle co-signe les autobiographies. L'Intranquille de Gérard Garouste, N'oubliez pas que je joue de Sonia Riquiel, Où tu n'es pas revenu et L'amour après avec Marceline Loridan-Ivens. Elle a aussi collaboré avec Eva Joly sur Deux Polars, la journaliste Ariane Chemin sur l'élection de Nicolas Sarkozy et avec l'obstétricien René Friedman et l'actrice Marianne Denicourt. Seule, elle a publié C'était mon frère, consacré à Vincent et Théo Van Gogh, le roman Les Chagrins, Les Faibles et les Forts, inspiré d'un fait réel, L'Insoumis sur Mohamed Ali, Victor Hugo vient de mourir et plusieurs livres sondant les courants de l'histoire. Elle vient de publier Nous nous parlons d'un lieu où tout est fragile, chez l'iconoclaste, sur un homme rencontré dans un centre d'hébergement d'urgence du SAMU social dans lequel elle co-anime un atelier d'écriture. Rachid, né en 1935 à Annaba, en Algérie, va lui raconter ses souvenirs. Elle les compile avant qu'ils ne disparaissent. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Judith Pérignon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Ah oui, c'est la question rituelle.
Évidemment.
Eh bien, bon, c'est une journée où j'ai eu quelques bonnes nouvelles, mais qui, voilà. Mais en tout cas, il y a un livre que j'ai refermé ce week-end et qui s'appelle Le chant du prophète de Paul Lynch et que j'ai trouvé à la fois terrifiant et magnifique et auquel je pense encore beaucoup. Voilà.
Le 27 janvier dernier sonnaient les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Vous avez collaboré avec Marceline Loridan-Ivens, disparue en 2018, qui était une amie de Simone Veil. Elles sont toutes les deux rescapées d'Auschwitz. Elle y fut déportée à l'âge de 15 ans. Vous avez signé avec elle les livres « Et tu n'es pas revenu » et « L'amour après » sur l'amour, le désir et le corps après Auschwitz. Et... je ne la connaissais pas, mais c'était un sacré personnage. Elle avait un élan vital et un enthousiasme communicatif. Quels souvenirs gardez-vous d'elle ?
Ben exactement ce que vous décrivez, une femme un peu qui tempête beaucoup, à la fois dans tous les registres, la colère, la peur, la gaieté. On ne s'ennuyait pas avec Marceline, on pouvait même s'engueuler. Donc c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser, à laquelle je pense encore souvent. Je suis restée amie avec ses amis. Et donc, comme ça, on fait des soirées, on parle d'elle. Et je suis contente qu'elle ait une vie si longue alors qu'elle a cru mourir à 14 ans. Et on parle d'elle pour que sa vie soit encore plus longue.
C'est le plus beau des hommages.
On essaye.
Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose ?
Oui, toute rencontre... toute rencontre comme ça, et écrire pour quelqu'un, vous mettre dans la peau de quelqu'un, de dire « je », vous apprend quelque chose aussi sur vous. Et Marceline m'a emmenée dans sa mémoire, et on l'a fait avec pudeur et en même temps de façon très directe. Elle m'a appris, voilà, elle m'a laissé sa colère.
Vous n'étiez pas, avant de la rencontrer, en colère ?
Si, mais pas de la même manière. La colère est quelque chose que je sors peu. Je pense que j'écris, justement, c'est ma face. Écrire, c'est solitaire et c'est silencieux. Et pourtant, je pense que c'est la partie de moi mélancolique et en colère qui écrit le plus souvent. Ouais.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Judith Pérignon, dans un instant, on va évidemment s'intéresser à votre dernier livre dans lequel il y a un engagement social. Et en parlant d'engagement, j'aimerais parler de votre parcours. Vous êtes née dans une famille, je vous cite, ouvrière, militante et syndiquée.
Alors mes grands-parents, d'origine ouvrière, mes grands-parents maternels étaient ouvriers et j'étais assez proche d'eux. Et mes parents étaient eux-mêmes très très engagés, effectivement, politiquement, syndicalement, réunion à la maison, nous on pliait les tracts pour eux, enfin, c'est toute cette ambiance des années 70 où le monde entier s'engouffrait chez nous. Il y avait les combats locaux, communaux, nationaux, et puis il y avait le monde entier dans la lutte contre le fascisme, je me souviens au Chili, mais aussi côté en Pologne. Donc tout ça, j'ai grandi là-dedans, effectivement.
Et vous colliez des tracts pour les 35 heures ?
Ouais, avec mon père, je me souviens qu'il y avait des sauts de colle et les affiches de la CFDT pour les 35 heures, et j'adorais. Mes parents étaient, ma mère est toujours très engagée, et on collait, on distribuait, et je trouvais que ça donnait une force à mes parents. Et bon, moi je regardais ça avec des yeux d'enfant, et j'y croyais, dur comme fer.
Alors justement, vous dites avoir été construite par les livres et par l'idéal politique. Vous évoquez la fascination pour les utopies et, en même temps, le deuil des élans qui se brisent, qui sont tous les deux en vous.
Bah, bien sûr, parce que justement, je vois dans mon enfance et à travers notamment la figure de mes parents cet élan très fort, avec ce qu'il faut de naïveté pour militer chaque jour et y croire. Et moi, je vais devenir journaliste, mon père l'était aussi, et je vais devenir journaliste politique dans les années 90. Et là, alors les années 90, c'est le deuxième mandat de Mitterrand, c'est vraiment, et il n'y a pas qu'en France, c'est vraiment la fin. On sait que la gauche, là, elle se convertit à une espèce de vision très ramollie du changement et du progrès. On le paye encore aujourd'hui, et donc j'ai senti cette montée dans l'enfance et puis cette descente dans ma vie professionnelle, et on voit où on est aujourd'hui. C'est là, l'utopie va très mal, oui.
Et pourtant, vous dites que la figure politique, dans ce qu'elle a de plus positif, c'est la figure qui est au service des gens, et vous citez Eleanor Roosevelt.
Ah oui,
j'aime. Donc ça existe. Est-ce qu'il y a encore des gens qui seraient au service du peuple ?
Mais il y en a eu, il y en aura, et bien sûr.
Donc ouais, tout n'est pas désespéré ?
Non, bien sûr, il y a des cycles. Mais voilà.
Là, on n'est pas encore au creux de la vague, hélas.
Non, mais je pense que même la violence, moi je passe du temps aux États-Unis, la violence américaine, là, va aussi réveiller des combats. Alors parfois, ça va être dangereux même de se battre, mais le combat, on n'est pas obligé de se battre pour être sûr d'y arriver. Vous voyez, le 19e était beau pour ça, c'est qu'il se battait sans être sûr d'y arriver. Il se battait pour se battre. Et ça, faut qu'on retrouve ça.
C'est Fitzgerald qui dit dans La Fêlure, on devrait se lever tous les jours j'ai totalement oublié cette citation, faudrait que je me donne une contenance là. On devrait savoir que les choses sont désespérées, mais continuer de se battre tous les jours.
Oui, faut être des nantis pour être... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'y croire. Et c'est souvent les gens qui sont dans une posture déjà très difficile. Ils n'ont pas d'autre choix que de se lever et d'y croire. Et aujourd'hui, on est très désespérés, c'est presque comme des nantis. On a vécu, en tout cas, une partie, et je me mets dedans, enfin, voilà, j'ai eu la chance de choisir ce que je fais. Et je trouve que le désespoir, il est surtout dans les couches les plus favorisées de la population.
Ah bon ?
Oui, il y a des gens qui se battent tous les jours. Et
mais
ils n'ont pas le choix.
Mais qui sont désespérés aussi ?
Ben, je ne les trouve pas aussi désespérés que les plus protégés.
Ah oui ?
Oui.
Et vous pensez que peut-être que c'est parce que les plus protégés ont le temps de s'apitoyer sur eux-mêmes ?
Oui, par exemple.
C'est une jolie nuance, le par exemple. Est-ce que vous vous découragez parfois ?
Pas longtemps.
Ah, ça a toujours été une de vos caractéristiques ?
Oui.
En 2013, vous avez publié « Les faibles et les forts », une fiction inspirée d'un fait divers, la noyade de 6 adolescents noirs en Louisiane. Et dans « Là où nous dansions », vous écrivez sur l'effondrement de Détroit, vous intéressez au libéralisme, aux années Thatcher, dans le jour où le monde a tourné. L'histoire politique et sociale, ça vous a toujours passionné ?
Oui. C'est-à-dire que, et donc ça m'amène au journalisme, évidemment, quand je suis plus jeune. Et dans la littérature, c'est une manière de croiser l'histoire, le climat politique et social, et la vie des gens. Et ne jamais séparer ça. Essayer de comprendre comment tout ça agit sur nous, sur nos choix. C'est ce que j'aime notamment dans la littérature américaine, c'est qu'on a toujours l'arrière-plan. On a le climat, on a le paysage, on a les choix, le quartier, les choix politiques. Et on comprend mieux qui on est quand on sait où on vit.
Votre premier roman s'appelait Les Chagrins, c'était sur trois femmes de la même famille, dont l'une est murée dans la tristesse et dans le silence. Et je me suis demandé si les non-dits vous faisaient peur et si c'était pour ça que vous faisiez se raconter les gens.
Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. On a tous des non-dits dans nos histoires ou des gens qui ne veulent pas parler autour de nous. Et aller faire parler les gens, que ce soit là, par la fiction, par le journalisme, par la radio, c'est dénouer quelque chose qui sûrement m'inquiète depuis que je suis gamine. Oui.
Le livre dont on va parler ce soir, c'est un projet qui a débuté il y a 5 ans à l'investigation de la Maison de la Poésie, avec plusieurs collaborateurs. Vous avez vous animez toujours avec eux un atelier d'écriture dans un centre d'hébergement d'urgence du SAMU social à Paris.
Oui.
Et vous êtes devenu un collectif et une troupe appelée les Alphabètes.
Exactement.
Vous pouvez expliquer ce choix ?
Eh bien, disons que donc, c'est un centre d'hébergement d'urgence du SAMU social où vivent des gens. Alors, ce n'est pas des gens qui sont là pour une nuit, c'est des gens qui ont été à la rue et qui finissent par être pris en charge et qui ont une chambre, seule ou à deux. Et nous, le mercredi après-midi, on est toute une équipe, je suis avec l'écrivain Yana Perry, des gens de la Maison de la Poésie, Donatien Châtaignier, on installe pendant 3 heures un atelier de poésie. Viens qui veut, qui peut, reste une heure, viens juste prendre un café, et on écrit. Parfois c'est des bouts de leur histoire, parfois pas. Et ça fait 5 ans, donc c'est des gens dont la vie a été assez violente pour qu'ils n'aient plus confiance en personne. Et au bout de ces 5 ans, on a vraiment construit la confiance. Et donc, on est devenus les Alphabètes parce qu'on monte sur scène chaque année à la Maison de la Poésie, parce qu'on a participé à des spectacles, parce qu'on a un volume de textes assez incroyable qu'on édite. Et dedans, dans ces textes, vraiment, il y a des choses d'une grande, très grande puissance littéraire. Donc, il fallait qu'on crée comme ça ce collectif où se mélange... des jeunes, des vieux, des gens qui ont dormi dehors, pas dehors, enfin... Et nous, moi, je me sens partie, même si j'ai une vie nettement plus privilégiée, je me sens très très liée à tous ces gens de l'atelier.
C'est au centre du 26 rue Popincourt à Paris que vous avez rencontré Rachid, né en 1935 à Annaba, en Algérie, enfin Annaba qui portait un autre nom.
Oui, c'était Beaune. Beaune la coquette. C'était, voilà, au temps des colonies françaises, c'était Beaune. Mais c'est devenu... Et c'était avant Annaba.
Et alors vous avez écouté ses souvenirs en atelier, puis en tête-à-tête. Et quand est-ce que vous avez su que vous alliez écrire sur lui ?
Au début, ce n'était pas mon intention. Justement, je me disais là, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas auteur. Je viens pour être avec eux, les aider à écrire, à parler, à se raconter. Et c'est pour nous, c'est entre nous. Et puis cette voix-là, elle est... Toutes les histoires sont intéressantes, mais lui, il a une façon... Une langue très poétique, très imagée. Il écrit pas, il parle et nous on prend en note le plus vite possible parce que chaque mot est parfois tellement beau qu'il faut pas le perdre. Et puis c'est aussi des longs plans séquences qu'il nous raconte. C'est comme des moi je voyais des images et j'ai eu envie de mettre bout à bout cette vie pour la comprendre. Donc je me suis effectivement après les ateliers isolée avec lui pour poser plus de questions. C'est un homme d'un certain âge, donc la mémoire est fragile.
Il a 89 ans aujourd'hui. 89.
Il va avoir 89 ans là au mois de mars, je crois. Et des fois il est en boucle, mais j'ai essayé de comprendre, de rendre une chronologie à cette histoire qui commence le plus souvent. Il a 6-7 ans. Annaba, c'est là où les Alliés ont débarqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc généralement ça commence. Il est dans un figuier avec son frère. Il a jamais vu passer un avion et voit cette chose qui vole et cette chose va lancer des bombes et voilà, c'est des avions allemands car les Américains et les Anglais viennent de débarquer. Et donc là on est au croisement de l'histoire et d'une histoire de manière d'une puissance assez incroyable. Il fallait que ça reste, il fallait l'écrire cette histoire.
Est-ce que vous lui avez parlé de ce projet ? Est-ce qu'il a lu le livre ?
Je lui ai parlé, bien sûr, parce que quand on s'est isolé, je lui ai dit, je vais t'enregistrer, Rachid, je vais te poser des questions, d'accord. Mais souvent, il oublie, puis je lui ai parlé du livre. Il y a des dessins dans ce livre, donc ils ont commencé à être faits, des très très beaux dessins d'Hippolyte. Et je lui ai montré, parce que j'avais peur qu'il oublie en cours de route. Donc évidemment, quand le livre a été fini, j'ai frappé à sa porte et je lui ai apporté. Il était très très content, flatté. Il m'a dit donc ça c'est vous et moi, je lui ai dit oui et je crois que je vais lui lire des passages, peut-être l'a-t-il fait, sa réception des choses est très mystérieuse.
Comme ses propos, dans le livre Judith Perrignon, vous alternez narration descriptive de votre plume et témoignage de Rachid qui dit des choses comme « Et pendant la guerre, tu sais, il n'y a rien de grave à part les morts. »
Mais ça, c'est juste la vérité. Et justement, c'est cette voie-là où il est débarrassé des dates, pas complètement des faits, mais il arrive à les purer des choses. Et il est dans les cauchemars beaucoup, je pense que cette guerre le hante. D'ailleurs, il a recommencé à devenir insomniaque quand la guerre en Ukraine a commencé.
Il a cru que c'était une guerre mondiale qui s'annonçait.
Ben voilà, c'était comme si en fait, parce qu'entre les deux, dans cette guerre de son enfance, celle-là, il y a la guerre d'Algérie au milieu, j'ai l'impression qu'il y a une guerre qui n'est jamais finie dans la vie de Rachid en fait.
Et vous prenez en compte cette confusion, ce flou poétique, puisqu'il parle d'un figuier ou d'un jardin, ça c'est vraiment très précis chez lui, il s'en mêle dans les dates, et vous-même vous êtes perdu parfois, et vous écrivez d'ailleurs « si j'ai bien compris ».
Oui, c'est exactement ça. Et j'essaye par mes questions de préciser le décor, le paysage, qui est qui, et parce que ça il le fait pas spontanément, il vous raconte une scène magnifique. Où il vous dit la couleur des yeux des soldats, il vous dit effectivement cet arbre au bout du jardin, mais vous avez juste besoin un peu de savoir en quelle année on est, ou des choses comme ça. Mais parce qu'il est... J'écris que c'est le vieil homme et l'enfant qui parlent en même temps, et c'est exactement ça. Je pense que c'est par la bouche d'un vieil homme sortent les souvenirs précis d'un enfant.
Est-ce que vous pourriez lire un extrait du livre ?
Ben, je vais vous lire le début.
Oui.
Rachid... Quand est-ce que tu as commencé à dormir dehors ? Vers minuit. Je voulais dire, à quel moment de ta vie tu as commencé à dormir dehors ? Vers minuit, peut-être une heure. Rachid n'est pas sourd, pas fou. Minuit à l'horloge de l'existence, ça veut forcément dire quelque chose. Ce n'est pas la fin. Rachid a parfois dormi dans des caveaux, chez les riches du cimetière. Eux ne bougeaient pas au matin, lui si. Il se relevait, poussait doucement la petite porte grinçante d'une famille de l'au-delà et s'en allait, peut-être déjà dans une veste de costume comme celle qu'il porte aujourd'hui sur une chemise sombre.
C'est truffé d'anecdotes. Il y a par exemple des anecdotes aussi glaçantes que belles. Je pense à la montre qu'il prend un cadavre pour l'offrir à son oncle qui n'en a jamais eu.
Oui. Ben, c'est-à-dire que, voilà, c'est les bombardements, il a 6-7 ans, et il y a des chars comme ça calcinés, les chars anglais, qui sont calcinés par les bombes allemandes, donc on est à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et lui, avec son frère, ben, il est très curieux de tout ça. Et donc, il escalade, et il voit des soldats, les yeux, la bouche ouverte, les yeux ouverts. Et comme les yeux sont ouverts, il se demande s'ils sont vraiment morts. Oui, oui, dit son frère. Et puis, bah, il y a une montre. Alors, il prend la montre, il détrousse le cadavre. Et puis, il n'a jamais eu une montre. Et son oncle n'a jamais eu une montre. Et donc, il offre la montre du soldat mort au soldat, du soldat mort à son oncle. Et tout ça, je pense que c'est sur le côté immuable de la guerre. Je pense que des enfants dans la guerre d'aujourd'hui pourraient raconter les mêmes choses.
Donc, c'est... Vous comparez d'ailleurs à un moment à une sorte de petit prince.
Oui, oui, oui.
Il dit le futur, il n'y en avait pas, j'étais de temps en temps heureux.
Oui, oui, oui.
Vous vouliez, vous, Judith Perrignon, c'est quelque chose qui revient souvent comme un leitmotiv, sauver les choses de l'incendie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ramasser les souvenirs avant qu'il ne soit trop tard ?
Oui, parce que, voilà, vu son âge, sa mémoire, parfois il se répète, les souvenirs sont de plus en plus flous. Et moi, j'étais comme dans une reconstitution de sa vie. Cette vie donc, qui commence à la Seconde Guerre mondiale en Algérie, qui va l'emmener en France comme travailleur immigré.
Qui va sur un navire militaire américain.
Pour moi, c'est un rêve, ça. Il raconte une histoire d'un enfant qui est parti et qui a disparu, et puis qui est revenu des années après cherchant sa mère. Lui a cherché sa mère aussi, puisque celle qui croyait être sa mère était sa grand-mère. Donc ça, j'ai essayé de le faire, de détricoter comme ça ces images pour leur donner un petit peu plus de rationalité, mais tout en gardant ces images qui sont d'une telle beauté.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Nous sommes avec vous, Judith Perrignon, pour évoquer votre ouvrage « Nous nous parlons d'un lieu où tout est fragile » et de Rachid, un homme de 88 ans au moment de l'écriture du livre que vous avez rencontré dans un centre d'hébergement d'urgence où vous co-animez un atelier d'écriture. Et il y a beaucoup, ce qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes très violents dans l'enfance de Rachid. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous vrais, puisque vous jouez aussi sur ça. D'abord, il a été kidnappé par son oncle pour voir sa mère.
Mais c'est un jour, il me dit à la sortie de l'atelier, il me dit, un jour mon oncle m'a kidnappé et il m'a emmené voir ma mère. Et il me dit, je te raconterai ça un jour. Et puis il s'en va. Donc moi, évidemment, je ne pensais plus qu'à ça.
Ah bah ça, il est doué en suspense.
Ah oui, des petits cliffhangers comme ça.
Oui.
Et effectivement, je pense que Rachid a longtemps grandi en pensant que ses grands-parents étaient ses parents. Et un jour, un oncle l'emmène, alors qu'il joue tout seul dehors, voir une femme qui lui dit « c'est moi ta mère ». Et en fait, son père était mort jeune d'un accident. Alors, il dit, il a été frappé, mais bon, bref. Et il y a eu un accident, je pense, dans l'usine où son père travaillait. Et je pense que ses grands-parents paternels l'ont récupéré. C'était un garçon. Et on a dit à sa mère, qui avait dû être mariée très jeune, « refais ta vie ». Et lui a pensé que sa mère était sa grand-mère. Et il a dit à cette femme qui lui dit « c'est moi ta mère », il lui dit « non, je ne veux pas être avec toi ». Et ça, je pense, quand on parlait de la guerre tout à l'heure, je pense que c'est une des deuxièmes fractures dans la vie de cet enfant. Parce que quand vous rencontrez un homme de 88 ans dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris, forcément c'est une succession de fractures dans la vie qui ont mené à cette lente dérive et déconnexion avec les autres. Et je pense que là, il y a deux fractures majeures de l'enfance qui sont celles-là, qui sont mes parents et cette guerre au-dessus de la tête. Ouais.
Il y a aussi des massacres de familles entières, l'un par un de ses oncles qui est allé en prison et l'autre par un Sicilien jaloux à quelques rues qui a massacré toute sa famille quand il avait 10 ans.
Oui, il raconte des choses comme ça. Il a un de ses oncles qui a massacré une famille de pieds noirs. Qui avaient des tracteurs et qui empiétaient doucement sur leurs terres. Donc là, on a le... il a été... Donc là, c'est pendant la guerre, donc il a été envoyé au bagne de Cayenne. Donc c'était l'oncle Hassan Cayenne. Et donc oui, alors à chaque fois, ces histoires font irruption. Et celles-là, je pense qu'elles sont très véridiques et elles montrent la violence de la guerre, de la colonisation, et tout ça dans le regard de cet enfant qui ingurgite comme ça énormément, énormément de choses.
Et puis parfois, il y a un peu de douceur tout de même, et comme il dit, j'ai été heureux quelques fois, on se dit que ça aurait pu se dérouler autrement. Il a été maçon, il voulait devenir architecte, il a pris des cours de dessin d'architecture à Saint-Étienne.
Oui, alors d'abord, bon, là, on arrive plus tard, c'est un jeune de 18 ans qui traverse, qui fait Annaba Marseille et qui vient chercher du travail en France, mais lui, il rêvait de faire mécanique. Et on lui dit, il n'y a pas. C'est le bâtiment, comme beaucoup, on a envoyé. Mais il avait un talent, et effectivement, on l'envoie prendre des cours à Saint-Étienne. Mais là, il se heurte à un racisme terrible, y compris des jeunes. Il dit, moi je mangeais aussi avec les cadres, il était sûrement très prometteur, les professeurs l'aimaient bien, et il supporte pas ce racisme, et il s'en va. Et il va travailler chez Alstom à Belfort. Là, on retrouve totalement le parcours d'un ouvrier algérien qui va venir chercher du travail en France.
Il y a une histoire presque romanesque avec les wagons-lits.
Oui, parce que Rachid, donc là, vous avez à la fois cette fois ce fond de chercher du travail, voilà, un immigré algérien en France, dans ce pays qui alors, dans les années 60, a beaucoup de travail, a besoin de ces immigrés. Mais lui, à chaque fois, il rajoute une part. Quand il est à Belfort, il achète un château. Il travaille à Alstom, il nous a toujours parlé du château de Belfort, qu'ils auraient acheté à plusieurs. Je ne sais pas si c'est une ruine, c'était pas chauffé, mais voilà, il a ce château de Belfort. Et puis plus tard, il a travaillé au wagon-lit. Et quand les wagons-lits ont fermé, il a voulu acheter un wagon. Et il pensait le ramener en Algérie.
Il était à Austerlitz.
Voilà. Et il a peut-être vécu dans ce wagon à l'arrêt pendant longtemps. Et dormi là. Qui est peut-être un début de décrochage, mais lui, il le voyait comme son palais. Un wagon première classe, évidemment. Il a voulu un wagon première classe. Donc Rachid, c'est à la fois le quotidien là, de ces ouvriers en France, mais il a cette part en lui, cette poésie qui fait qu'il transforme les choses. Et je pense réellement, il ajoute à ses destins forcés une part totalement magique. Et ça, c'est très fort.
Vous le décrivez comme un clochard céleste.
Un petit peu, le mot m'est venu comme ça. Alors les clochards célestes, c'était pas exactement ces gens, c'était plutôt ces hobos de Californie.
Voilà,
exactement. Mais parce que cette part de lui peut rêver peut formuler sa vie autrement que celui qui subit complètement ce racisme, ces chantiers, cette vie difficile qu'ont eu tant d'immigrés première génération en France. Voilà, il arrive à sublimer, à magnifier quelque chose, et je pense qu'il lui est arrivé des très belles choses, oui.
Notamment des histoires d'amour, mais ça je n'en dis pas plus. Alors il y a une curiosité un moment dans ce livre, Judith Pérignon, je ne pense pas qu'on aura le temps de la lire, mais j'aimerais que vous en disiez un mot, puisque c'est le discours de Jules Ferry au Sénat sur l'Algérie le 6 mars 1891.
Oui, c'est un discours qui fait c'est un discours qui fait sur le jeune arabe. Rachid, lui, il n'est pas allé à l'école. Il allait à l'école arabe. Il n'y avait pas obligation pour l'école française d'intégrer ces jeunes au début, jusqu'à un certain moment. Mais Jules Ferry avait théorisé ça, que le jeune arabe, de toute façon, il est intelligent jusqu'à 12-13 ans. Et puis après, il y a une crise dans son organisation, un arrêt de développement, et qu'il faut profiter de cet arrêt de développement parce que, voilà, on va en faire une population laborieuse. Donc apprenons-leur le français, et après ils vont travailler pour nous. Et tout ça est théorisé dans ce discours, quoi. Il est perdu non seulement pour l'école, mais pour la civilisation française. Donc on va jouer et il parle de l'arrêt de l'intelligence du jeune arabe à 14 ans. Et quand on voit que c'est l'apôtre de ce qu'est l'instruction en France, on comprend tellement beaucoup de choses.
Ah, mais c'est pour ça tellement que je voulais me soulever.
Ouais.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
C'est beau de enfin entendre Demain dès l'aube de Victor Hugo, très bien lu par Bernard Noël, parce qu'on est beaucoup à avoir massacré ce texte à l'école quand on devait l'apprendre par cœur. Judith Pérignon, à 8 ans, vous aimiez déjà Victor Hugo. Vous êtes mise à l'écriture à cet âge-là, vous écriviez des poèmes, mais vous dites qu'ils étaient totalement nunuches. Je vous cite.
Quand je les relis, oui, je cherchais, j'étais vraiment, effectivement, je cherchais. Ils sont à la fois. Comme j'écris aujourd'hui, je voyais pas de, on voit pas, on devine pas un talent particulier. C'est une petite fille qui écrit et qui cherche la rime en fait. Et ils sont à la fois bucoliques, mignons, mais un peu, j'appelle un peu nunuche. Mais en fait, là où je me retrouve, c'est que ce que je cherchais dans la rime, c'est la musique en fait de la langue. J'ai vraiment aimé la langue et la lecture et l'écriture par la poésie, parce que j'aime quand il y a une musique de la langue.
Vous avez consacré un ouvrage à Victor Hugo. Victor Hugo vient de mourir, entre roman et enquête, sur les funérailles d'Hugo. Et vous dites que c'était un grand moment de tension dans la ville.
Oui, c'est un moment de tension politique. On nous présente ça souvent comme un grand moment d'unanimité nationale. Alors le pays a pleuré de bas en haut, certes. Mais ça a été un moment mis sous surveillance, parce qu'on est dans cette fin du 19e. C'est un 19e qui est rythmé par des révolutions, la révolution voulant terminer la précédente. Et donc on a très peur, les communards sont rentrés, vraiment. Et donc c'est un moment de sous contrôle, on contrôle le jour pour être sûr que les ouvriers ne seront pas là, on contrôle le trajet pour ne pas aller dans les quartiers populaires. Et donc je me suis plongée dans les archives de la police. Et mon propos, c'était de chercher l'émotion de la foule, le lien de la foule à Victor Hugo, pour creuser le mien, finalement. Voilà, vraiment.
Comment vous vous êtes retrouvée à écrire des polars avec Eva Joly?
Ben d'abord, parce que comme j'écris effectivement pour certaines personnes, ce que font d'autres auteurs et journalistes que moi, j'ai rencontré Eva Joly parce que Laurent Beccaria, qui publie Eva Joly, m'avait demandé d'écrire le troisième volet sur sa vie. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis tellement bien entendue et avec qui m'a tellement appris. Et moi, c'est un moment où je me mettais à la fiction. Elle, c'est une dévoreuse de polar. Et on s'est dit, tiens, elle sait tellement de choses, tellement d'histoires. Et on a essayé de mélanger nos envies et nos savoir-faire.
Vous avez publié « N'oubliez pas que je joue » avec Sonia Riquiel qui se confie sur la maladie de Parkinson. Vous ne fuyez jamais la sombreur ?
Non, je pense que c'est ce que je vous disais au début, c'est que je pense que c'est comme ça que j'éponge, par l'écriture, j'éponge une partie de ma part sombre, en fait. Voilà.
Louise Michel, femme tempête.
Michel Louise, signalement. Visage ovale, front haut, teint clair, yeux gris.
Toujours cette impression d'une découverte aux archives, pourtant mille fois manipulées.
2021 sur France Culture, Judith Pérignon, on entend un extrait de votre grande traversée consacrée à Louise Michel. Vous avez fait un livre aussi. Et puis, autre figure insoumise à laquelle vous avez consacré une grande traversée et un livre, c'est Mohamed Ali. Et alors, ça s'appelle L'Insoumis pour Mohamed Ali, mais l'autobiographie de Gérard Garouste, ça s'appelle L'Intranquille. Et je voulais savoir si vous étiez plus insoumise ou plus intranquille.
Ah, j'aimerais bien être plus insoumise, mais je crois que je suis plus intranquille.
Vous êtes près de plume, régulièrement, et vous dites que vous êtes assez pudique et que vous détesteriez que quelqu'un fasse avec vous ce que vous faites avec ceux dont vous accueillez les secrets.
Ah bon, je ne savais pas que j'avais dit ça. Oui, sûrement. Sûrement, mais Lélé, à chaque fois que je l'ai fait, c'était avec, évidemment, c'était quand les gens étaient prêts à le faire, hein, que ce soit... Donc, mais la pudeur, je pense, aide à installer un rapport de confiance, que ce soit avec Marceline dont on parlait tout à l'heure, où les souvenirs les plus violents ne sont pas venus au début, que ce soit avec Gérard Garouste, où pour parler de la folie, on a mis, j'avais peur d'en parler, et au fond, ça a été des moments de franche rigolade. Donc la pudeur fait que les gens que j'ai, peut-être en les approchant, fait que les gens ont confiance. On n'ira pas trop vite.
We are.
1982, You Haven't Done Nothing de Stevie Wonder dans la 20e heure sur France Inter. C'est votre choix musical, Judith Pérignon. Et vous parlez de Stevie Wonder dans Là où nous dansions.
Ben oui. Stevie Wonder, c'est un enfant de Détroit. Et Détroit, c'est un endroit où je passe beaucoup de temps depuis des années. Et j'ai pensé à cette chanson parce que j'ai vu Stevie Wonder au mois d'octobre à Détroit. Justement, il a fait quelques dates dans le cadre de la campagne électorale. Et c'était d'une puissance. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose politiquement pour que toute sa présence fasse sens. C'était un enfant de la ville. Il y avait dans la salle, moi j'étais au milieu notamment de toutes ces femmes noires qui sont pour moi les grandes perdantes de l'élection. C'était avant l'élection, qui dansaient, qui étaient émues. Et moi, j'étais tellement émue d'être avec elle et d'écouter Stevie Wonder et de danser avec elle. Donc voilà, j'avais envie de réentendre Stevie Wonder.
En parlant de musique adolescente, vous vouliez être Debbie Harry ?
Ouais, ouais.
Ouais, c'est chic.
Ouais, ouais, ça, le rock et toute cette musique m'a toujours habitée depuis l'adolescence, ouais.
C'était en 1975, au théâtre Hammersmith Odéon de Londres. La première fois qu'il jouait en Europe. Des affichettes sur les sièges et à l'extérieur proclamaient « L'Angleterre est prête pour Bruce Springsteen ». Comme pour entretenir le vieux duel du royaume et de son ex-colonie sur fond d'invasion rock'n'roll. Il arracha tout. Ce n'était pas un slogan commercial qui pouvait décréter qu'il était prêt pour sa première prestation européenne. C'est lui qui allait le prouver.
Grande traversée, Bruce Springsteen. Quatrième épisode, toujours plus près de la scène. De Judith Pérignon, réalisé par Gaël Gillot.
Bon, mais ils ont dit toutes les informations, donc j'ai pas besoin de répéter. C'est votre grande traversée sur France Culture consacrée à Bruce Springsteen. Et en fait, quand on regarde votre parcours, Judith Pérignon, Springsteen, Mohamed Ali, Détroit, l'Amérique vous fascine ?
Elle m'intéresse. Elle m'intéresse depuis longtemps. C'est une addition de beaucoup de choses. J'ai l'oncle d'Amérique dans mon histoire, donc ça a beaucoup compté. Et adolescente, la musique américaine, les romans américains. Voilà, c'est un pays qui me fascine pas au sens, parce que c'est un pays qui produit tellement d'idéologie, de propagande, que je ne suis pas là-dedans. Mais justement, c'est un pays d'une telle violence que en réaction à cette violence, il produit énormément, et notamment en termes culturels, de réponses musicales, de réponses littéraires. Et ça, c'est cette confrontation permanente dans l'histoire américaine m'a toujours énormément touchée, bouleversée. Oui. Donc j'ai cherché dans tous mes projets à aller au plus près d'elle. Ouais.
It is happening again. It is happening again.
Judith Pérignon, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous en avez choisi trois. D'abord, un extrait du film Twin Peaks de David Lynch qui nous a quittés récemment. Film sorti en 92, ce moment précisément. Et donc, je vous laisse le remettre en contexte.
Oui, c'est dans la saison 2 de la série Twin Peaks. Alors c'était des choses qui comptent pour moi que vous m'aviez demandé. Oui. Hein, donc et Twin Peaks et David Lynch, ça a été un immense choc quand c'est sorti dans les années 90. C'est une série que j'ai re-regardée. Je pense qu'il a mis en image l'angoisse comme personne. Et cette séquence là, moi je peux me la faire sur YouTube en boucle. Et à chaque fois, je frissonne, ou j'ai envie de pleurer, ou j'ai...
Parce que c'est le héros qui voit...
Le géant qui annonce quelque chose dans ce bar américain.
Qui apparaît à la place de la chanteuse.
Oui, oui, d'un coup, le groupe se dissout, et puis un géant apparaît, et it is happening again, et on sait qu'un autre crime vient d'être commis dans cette petite ville de Twin Peaks. Et bon, je ne suis pas la seule à être complètement accro à cette série, mais voilà, ça fait partie des fondamentaux pour moi. Ouais.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la politique ?
Avec la politique ? Je sais pas, parce que c'est hors...
It is happening again.
Ah, la politique américaine aujourd'hui. Oui, c'est happening again. Et jusqu'au bout, j'ai voulu croire que ça n'arriverait pas. Et ça me terrifie ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis. En plus, on était toujours à se dire, il parle, mais il ne va pas aller. Et cette fois-ci, il y va. Et je regarde ça, voilà, notamment depuis Détroit, où je passe du temps et où j'ai beaucoup de liens. Et ce qui remonte vers moi est très, très moche. Ouais.
Alors, parlons de belles choses. Un roman, Asta, de John Kalman Stephenson. Ça se passe dans le Reykjavik au début des années 50.
Ouais. Ouais. Alors, il y a longtemps que j'ai lu ça. Enfin, il y a longtemps, il n'est pas sorti, il y a 20 ans, mais je trouve que c'est un roman qui est complètement éclaté, déconstruit, la ligne narrative, des chapitres, des paragraphes s'arrêtent et puis on les reprend 50 pages plus loin et le personnage tombe d'une échelle et il se met à réfléchir d'un coup, on est dans son passé. Je trouve ça prodigieux en termes de construction romanesque.
Vous avez choisi une photo aussi, Judith Pérignon. C'est Imogen and Twinka at Yosemite de Judy Dater.
Oui, c'est une photo que j'ai vue justement au musée de Détroit que j'adore. C'est une femme, une jeune femme nue devant un séquoia et sort de derrière l'arbre une vieille femme avec un appareil photo autour du cou. Et on a l'impression que finalement la vieille femme a pu être cette jeune femme nue. On imagine que l'arbre, c'est toutes ces, vous savez, ces lignes qu'il y a à l'intérieur du tronc, c'est le temps qui passe. La jeune femme nue, magnifique et surprise, et la vieille dame semble lui dire « je te veux pas de mal », mais moi j'ai l'impression que c'est la vie et le corps d'une femme résumée dans cette photo. Elle est très très belle, pas si connue que ça, mais...
Oui, elle est très belle.
Elle est très forte.
Elle date de 1974. J'ai lu que votre livre fétiche, c'était « L'ordre naturel des choses » d'Antonio Lobo Antunes.
C'est un de mes livres fétiches, oui. C'est un livre que je peux ouvrir à n'importe quelle page. Et j'ai découvert Lobo Antunes avec ce livre. Et encore une fois, j'étais fascinée par son désordre, par toutes ces voix qui s'entremêlent.
Vous aimez le désordre ?
Oui. Oui.
Alors vous aimez la vie ?
Ah oui, beaucoup.
Waouh ! Amor Fati ? J'en rencontre enfin une personne qui n'a pas peur de ça.
Ah non, beaucoup, oui. J'aime beaucoup le désordre.
C'est formidable. Alors, il y a une info que je ne peux pas passer sous silence, étant moi-même une karatéka. Il paraît que vous adorez le karaté.
Que je pratique assidûment.
C'est vrai ?
Oui.
Quel style ?
Shotokan.
Bah oui, le plus classique.
Oui.
Vous êtes quelle ceinture ?
Je suis troisième dan.
Oh, bravo ! Alors, pour ceux qui ne font pas d'arts martiaux, quand on parle de dan, c'est qu'on est au-delà de la ceinture noire.
Voilà, c'est le troisième, le premier dan est la ceinture noire, et j'ai passé le deuxième, puis le troisième, voilà. Il faut que je m'attelle au quatrième.
Alors, on a le temps pour un mini bonus musical.
Millions de vies cachées dans des maisons de tôle. Fourmis portant le monde sur tes épaules. Qui plient mais ne rompt pas comme le saule.
On entend Que deviens-tu de Gérard Manset. C'est un morceau qui vous fait toujours pleurer, Judith Pérignon. Mais
ah,
je l'ai mis suffisamment de façon très courte pour ne pas vous laisser le temps de pleurer.
Ouais, non, ça ne va pas pleurer en public. Oui, j'adore Gérard Manset. Encore une fois, la langue, quoi.
La langue, la musique.
La langue, la musique, la mélodie. Mais la langue, qu'est-ce qu'elle est belle.
Le chaos.
Le chaos, mais toujours sublimé par l'écriture, en fait.
Bien sûr. Un titre de livre à recommander aux auditeurs, et je vous libère.
Ah, je vous ai cité.
Un seul.
Ben, je vous ai cité mon Paul Lynch tout à l'heure. Eh bien, je ne sais plus.
La Bible.
Je ne l'ai pas lu.
Il faut que je
rentre. Je n'ai lu que le livre de Judith dans la Bible.
D'accord. Ah, bah oui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Judith Pérignon.
Merci à vous.
Votre livre, Nous nous parlons d'un lieu où tout est fragile, est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal, Irma Daniche et Franck Olivard. Programmation musicale assurée par Juliette L'Orphelin, à la technique, Jérôme Ragano. À demain, 20h10.